Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Robin Brissé-Doyle. Donc, j'étais en stage à la chaire ESS sur ces derniers mois. Et comme expliqué par Émilie, j'ai mené un travail de recherche, on va dire en deux parties. Une première partie qui était une revue de littérature sur le concept de solidarité. Et ensuite, une étude exploratoire auprès de 24 organisations de l'ESS de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais d'entretiens généralement d'une heure qui étaient réalisés avec une ou un salarié ou une ou un dirigeant de l'organisation. Je profite d'ailleurs de ce temps pour les remercier pour le temps qu'ils m'ont accordé pour réaliser ces entretiens. Également remercier la chaire pour cette opportunité de me permettre de partager quelques résultats de l'enquête que j'ai pu mener. Alors, avant de présenter la manière dont j'ai analysé les pratiques de solidarité entre ces acteurs de l'ESS et surtout de laisser la parole aux trois intervenants de ce soir, je vais commencer dans une première partie par définir grossièrement ce qu'est la solidarité, à quoi ce concept renvoie. Et dans une deuxième partie, je montrerai en quoi la solidarité est au cœur des organisations de l'ESS. Donc comme Oel l'a expliqué, on vous invite à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai à la fin de chaque partie. Pour commencer par la définition de la solidarité, alors en général dans la littérature, les auteurs font apparaître deux sens de la solidarité. Le premier sens est celui qui a émergé en fait dans l'Antiquité romaine, dans le droit romain. La solidarité était alors évoquée par le terme solidum, du latin solidum, qui renvoyait en fait ce qui tenait les individus entre eux en termes juridiques, c'est-à-dire des actes qui engageaient l'ensemble des acteurs qui prenaient part à une action. Donc la solidarité, c'est ici une responsabilité collective, une interdépendance entre différents acteurs. Le deuxième sens de la solidarité qui a émergé cette fois-ci de manière plus contemporaine à partir du 19e siècle, notamment dans le courant associationniste, donc dans les expérimentations du mouvement ouvrier au 19e siècle avec les différentes associations qui pouvaient être menées, mais également dans le courant du socialisme utopique avec des auteurs comme Fourier, Saint-Simon, Proudhon. Ici, la solidarité a un sens d'idéal moral, de ce qui tient la société, mais également un sens de devoir moral, voire même d'acte moral, où on remplace en quelque sorte la charité chrétienne par une solidarité laïque. Par la suite, ce terme donc, de solidarité n'est plus seulement employé dans un texte juridique, mais on l'a vu également dans le courant, dans les disciplines économiques, philosophiques et bientôt sociologiques avec Durkheim ou encore en politique. Et à partir du XXe siècle, la solidarité va généralement être attribuée à l'État, puisqu'on va même parler d'État social, d'État-providence, puisqu'il met en place la solidarité par opposition au marché à qui on réserverait l'économie. Alors, quand on voit cette double définition de la solidarité, on peut lui opposer deux autres notions, que sont les notions d'assurance et les notions de charité. En effet, dans la notion de solidarité, donc comme je l'ai dit, il y a l'idée d'interdépendance, et on le retrouve par exemple dans la sécurité sociale avec l'idée que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc les plus riches, pour faire vite, les plus riches vont cotiser pour les plus pauvres, les bien portants vont cotiser pour les malades, les actifs pour ceux qui sont en recherche d'emploi, etc. Au contraire, dans le concept d'assurance, chacun va payer le prix selon le risque qu'il a de tomber malade, d'être au chômage, etc. Et on peut comparer le système de solidarité à la française avec la sécurité sociale où chacun contribue et reçoit selon ses besoins en le comparant avec le système américain où on va payer en fonction du risque qu'on a de tomber malade ou non. Du côté de la charité, aussi une notion qui se distingue de la solidarité, puisque dans la charité, il y a une division entre ceux qui peuvent donner, mais qui ne reçoivent rien, et de l'autre côté, ceux qui reçoivent sans rien donner. C'est donc pas une interdépendance, mais davantage une dépendance qui ne va que dans un sens entre celui qui reçoit et celui qui donne. Et donc, la charité ou encore la philanthropie, elle se distingue bien de la solidarité qui peut être organisée par exemple par l'État. Comme l'a dit Émile Beaune en introduction, la solidarité renvoie donc davantage à des notions comme la coopération, l'entraide, qu'à la charité ou à l'assurance. Enfin, quand on parle de solidarité, on peut parler de solidarité à différents niveaux. Alors, il y a le niveau auquel on pense assez rapidement, c'est le niveau étatique, par exemple, donc par la sécurité sociale, et le revers, c'est par le biais des taxes et les impôts qui permettent donc de faire contribuer chacun au système de solidarité. Ici, la solidarité est généralement qualifiée de solidarité froide, puisque c'est une solidarité assez impersonnelle. À l'inverse, la solidarité qui peut avoir lieu au niveau de la famille, au niveau du voisinage, au niveau des relations de proximité, va être une solidarité davantage qu'on va qualifier de solidarité chaude, puisqu'elle est beaucoup plus interpersonnelle et beaucoup plus vivante. Et entre cette solidarité étatique et la solidarité interpersonnelle, on peut parler d'une solidarité entre guillemets tiède, qui est celle mise en place par les organisations. Ce qui nous amène donc à la solidarité mise en place par les organisations de l'ESS. Alors avant de passer à cette partie, la solidarité dans les organisations de l'ESS, je ne sais pas s'il y avait des questions déjà par rapport à ce que je venais d'évoquer.
Alors Robin, juste, je voulais pas te couper. Est-ce que tu pourrais essayer soit de monter le gain de ton micro, peut-être dans les paramètres de périphérique, je ne sais pas si c'est possible sur Teams, sinon de le rapprocher un tout petit peu. Il y a une personne qui nous demandait si c'était possible d'augmenter le volume. Donc si tu peux, si ça t'embête pas de rapprocher ton micro.
Ouais, bah peut-être que là c'est un peu plus fort, je ne sais pas.
En tout cas, c'est le mieux que tu vas pouvoir faire, donc on va s'en
Ouais.
satisfaire. Donc pas de questions pour l'instant, je crois.
Ok. Donc pour passer maintenant à la solidarité dans les organisations de l'ESS, je vais passer la slide suivante. Hop. Là, vous voyez bien la slide suivante?
Pour l'instant, on est toujours sur la même. On est sur.
Mince. Là, ça devrait
Voilà,
être
ça y
bon.
est, ça vient de changer, c'est bon.
Ok, merci. Alors, pour parler de la solidarité dans les organisations de l'ESS. Dans la littérature, certains auteurs parlent des organisations de l'ESS comme des organisations qu'ils appellent à double projet. En effet, ces organisations de l'ESS auraient, enfin, ont un projet économique et un projet donc en commun avec les entreprises classiques, qui est l'impératif de viabilité, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un équilibre entre les recettes et les dépenses. En revanche, ce qui va différencier les organisations de l'ESS avec les organisations classiques, les entreprises lucratives, c'est l'existence d'un projet qu'on appelle sociopolitique, qui est autre que la maximisation des profits, comme c'est le cas dans les entreprises classiques. Ce projet sociopolitique, il se matérialise par la concrétisation de la solidarité, et ce, de deux façons possibles qui nous amènent à distinguer les organisations de l'ESS selon deux types de solidarité. On a d'abord les organisations qu'on appelle à solidarité horizontale, qu'on peut également comprendre à solidarité interne, c'est-à-dire que la solidarité est avant tout organisée pour les membres, c'est une solidarité entre les membres, comme c'est le cas dans la plupart des organisations de l'économie sociale, comme les mutuelles, les coopératives et certaines associations, les membres s'associent, participent à la gouvernance, à leurs propres bénéfices. En revanche, dans les organisations de l'ESS à solidarité verticale, ici on retrouve davantage la deuxième définition de la solidarité qui est l'acte moral, puisqu'ici l'activité de l'organisation de l'ESS est organisée au bénéfice de tiers extérieurs, comme c'est le cas dans la plupart des organisations de l'économie solidaire, comme les entreprises d'insertion, mais on peut prendre aussi le cas de l'entrepreneuriat social ou encore des fondations où les bénéficiaires ne participent pas à la gouvernance de l'organisation. Alors, je ne sais pas si c'était bien clair ou s'il y avait d'autres questions qui avaient émergé. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions.
J'ai l'impression que tout va bien pour le public.
Très bien. Et alors, pour ma part, quand il a fallu donc catégoriser les pratiques de solidarité dans les organisations de l'ESS, j'ai eu recours, enfin, j'ai essayé en fait de trouver un cadre théorique qui soit adéquat. et j'ai utilisé le cadre théorique de l'économie plurielle en suivant un petit peu les recommandations de Philippe Hainaut pour celles et ceux qui avaient pu assister à la conférence en octobre dernier, où il expliquait que pour penser la solidarité en gestion, donc en théorie organisationnelle, il fallait recourir à ce concept. Alors, qu'est-ce que l'économie plurielle? En gros, l'objectif, c'est de sortir de l'opposition habituelle entre marchands et non-marchands pour faire ressortir trois logiques économiques qui coexisteraient dans la société. On a, alors vous pouvez le voir au sommet du triangle, on aurait d'abord la logique du marché, qui est la logique classique d'achat-vente d'un bien avec une symétrie entre les choses échangées. C'est par exemple, vous allez acheter un pain au chocolat à la boulangerie, donc un bien qui est acheté à un certain prix. La finalité est ici, dans la logique du marché, la maximisation des intérêts individuels. Ensuite, on a une deuxième logique qui est la logique de la réciprocité, qui repose sur le don contre don, où ici, contrairement à l'échange marchand, ce ne sont pas les dons et contre-dons qui sont symétriques, mais les acteurs de la relation. Alors, je vais donner des exemples après pour pouvoir illustrer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas un rapport donnant-donnant, comme ce n'est pas du troc, ce n'est pas je te donne un objet, tu m'en rends un dans l'immédiateté, mais c'est bien davantage une relation qui se tisse dans la durée, un don qui va créer ce qu'on peut appeler une dette de solidarité et qui va pousser à la logique je donne, je reçois, je rends. C'est par exemple le cas, je vais donner un coup de main à un ami pour son déménagement, donc je vais lui rendre un service de l'aider à déménager. Peut-être que plus tard, un mois après, lui, il va me prêter son tailleur-haie ou son enceinte pour organiser une soirée. Et plus tard, moi, je vais lui rendre à mon tour en, pourquoi pas, lui faisant un don financier lors de son mariage. Ici, dans cette deuxième logique économique, la finalité est la solidarité et non plus la maximisation des intérêts individuels. La troisième logique dans le concept de l'économie plurielle, c'est la logique de la redistribution, qui est ici davantage connue. Donc, elle repose sur la centralisation des biens par un intermédiaire qui va ensuite les redistribuer. Et la relation, elle est donc plus symétrique, c'est plus deux acteurs symétriques, mais bien hiérarchique, puisque la relation est organisée par une autorité centrale. Alors, cette autorité, elle est régulièrement l'État. C'est l'État qui va centraliser les impôts pour ensuite les redistribuer. Mais historiquement, ça a aussi pu être le chef de famille, le chef du village ou encore les mutuelles qui, elles aussi, centralisent les cotisations des adhérents pour ensuite les redistribuer. Comme pour la logique de la réciprocité, la finalité, c'est la solidarité, même si peut-être qu'on y reviendra. Pendant les échanges avec les trois intervenants, il peut exister des phénomènes d'accaparement par l'autorité centrale de certaines ressources. Alors, ce concept d'économie plurielle, pour les différents auteurs qui l'ont théorisé, il sert à qualifier des organisations. Et c'est par exemple, imaginons, vous avez besoin de faire garder vos enfants. Vous pouvez faire garder vos enfants par les grands-parents ou par des amis. C'est ici une logique réciprocitaire. Mais vous pouvez aussi les faire garder par une crèche privée lucrative. Donc ici, on sera dans une logique de marché et vous allez devoir payer une prestation. Ou encore, on peut avoir recours à la logique de la redistribution en plaçant ses enfants dans une crèche publique qui serait gratuite et financée par les impôts. Ce concept d'économie plurielle, il peut également servir à qualifier, à catégoriser alors des pratiques, des ressources, des relations, comme moi je l'ai fait dans l'étude. C'est par exemple acheter une prestation, ça fait bien partie de la logique du marché. Recevoir une subvention, ça fait partie de la logique de la redistribution. Et faire un don ou bien faire du bénévolat, ça repose sur la logique de la réciprocité. Ce qu'on peut noter, c'est que les organisations peuvent utiliser ces trois types de logiques pour faire fonctionner leur activité. Et on peut prendre l'exemple d'une association qui travaille, qui fait de l'aide alimentaire. Alors, elle peut recevoir des subventions de l'État, comme elle peut recevoir des dons des particuliers, des dons alimentaires d'autres entreprises, ou même des particuliers qui peuvent venir faire du bénévolat pour cette association. Alors, avant de passer à la suite, je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit, s'il y a des questions ou si c'était assez clair pour tout le monde.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Ah, ça y est, Julia Lamria nous a écrit. Je te laisse le lire en même temps, ou je le lis à voix haute comme ça.
OK.
Concernant votre précédente remarque, vous avez parlé d'organisation de l'ESS que l'on distingue des entreprises lucratives car elles portent un projet dit sociopolitique. Même si elles ne visent pas l'utilité sociale, les entreprises lucratives ne portent-elles pas elles aussi un projet sociopolitique? Finalement, une entreprise n'est-elle pas toujours politique?
Alors effectivement, je pense que après, ce sera sujet à débat, mais le concept de double projet des organisations de l'ESS peut être partagé aux entreprises classiques, où on peut dire que le projet sociopolitique pour les entreprises classiques, en général, c'est de maximiser les profits pour les actionnaires, c'est un projet politique, mais pour certaines entreprises qui vont mettre en place des démarches de RSE, etc., le projet sociopolitique peut aussi être un petit peu différent de la logique de la rentabilité. Donc j'espère avoir répondu à la question. Et s'il y
Alors,
a... Ouais,
tu as
vas-y.
répondu et je crois que tu as retiré ton diaporama sans faire exprès du partage.
Ok.
Ou quelqu'un peut-être a fait une manip qui te l'a retiré.
Hop. Donc là, normalement, c'est bon.
Ouais, vas-y.
Et donc, alors maintenant, je vais pouvoir, avant de laisser bientôt la parole, aux trois intervenants. Je peux présenter rapidement comment moi j'ai analysé les pratiques de solidarité mises en place par les acteurs de l'ESS pendant la crise du Covid. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'était le tableau qui m'a servi à cartographier, catégoriser ces pratiques de solidarité. Donc, vous pouvez voir en haut que j'ai repris le critère du principe de comportement économique selon si c'était une pratique qui correspondait à la logique du marché, de la réciprocité ou de la redistribution. Et sur la gauche, j'ai utilisé comme critère la forme de l'objet de l'échange, selon si l'échange était un échange monétaire, matériel ou bien immatériel. Et enfin, j'ai utilisé le critère de l'orientation de la solidarité, c'est-à-dire vers qui la solidarité était-elle organisée? Est-ce qu'elle était organisée vers l'organisation de l'ESS? Est-ce qu'au contraire, c'est l'organisation de l'ESS qui l'a elle-même mise en place? Ou bien est-ce qu'elle était ce que j'ai appelé entrecroisée, c'est-à-dire entre des acteurs en position symétrique, par exemple des pratiques de solidarité entre salariés ou bien entre différentes organisations de l'ESS. Pour donner quelques exemples, dans le tableau, j'ai mis l'exemple du chômage partiel. Donc ça correspond bien à la logique de la redistribution, puisque c'est l'État qui redistribue une partie des impôts au bénéfice des organisations de l'ESS. Et c'est une pratique qui est une pratique monétaire. En revanche, quand on prend l'exemple de la pratique de solidarité où on achète un bien plus haut que le prix du marché, comme le fait par exemple le commerce équitable, mais comme l'ont fait pendant la crise certaines organisations, il y a par exemple la coopérative agricole Sodiaal qui, pendant la crise, a décidé d'acheter le lait aux éleveurs plus haut que le prix du marché, en solidarité avec eux en temps de crise. Donc ça correspond bien à une pratique de solidarité qui est ici organisée par l'organisation de l'ESS et qui est une pratique de solidarité matérielle. On peut également avoir des pratiques de solidarité matérielles qui correspondent à la logique de la réciprocité. Ça a été le cas quand des organisations de l'ESS qui, par exemple, travaillaient dans le champ de l'alimentaire, ont fait des dons alimentaires soit à d'autres organisations qui les ont redistribués, soit directement à des bénéficiaires qui en avaient besoin. Et enfin, on peut prendre un dernier exemple pour illustrer la logique de la réciprocité. C'est quand les organisations de l'ESS se sont échangées entre elles des informations. Ça a été le cas de nombreuses coopératives qui, par le biais des fédérations de coopératives, faisaient des visioconférences avec d'autres dirigeants de coopératives pour échanger sur quels dispositifs ils avaient fait appel, comment ils avaient organisé l'activité dans leur entreprise, etc. Et donc, pour faire une petite transition, pour laisser ensuite la parole aux trois intervenants de ce soir. Je peux préciser que donc ce seront eux qui vont présenter eux-mêmes leur pratique de solidarité. Ce sera plus parlant que si moi je le fais pour eux. Et leur prise de parole sera aussi l'occasion de mettre en avant différents enjeux qui sont liés à la mise en place de ces pratiques de solidarité. C'est par exemple quelle a été l'articulation entre ces pratiques de solidarité et l'impératif de viabilité de ces organisations? Est-ce que l'économie, est-ce que le projet économique a pu être un frein à la mise en place de ces solidarités? Mais on pourra aussi revenir avec eux sur est-ce que la solidarité a parfois pu être vécue comme une contrainte ou encore comment pérenniser les pratiques de solidarité qui ont pu être mises en place pendant la crise?